Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui le pasteur Alain Joly. Pasteur Alain Joly, vous êtes professeur à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Vous enseignez l'histoire et la pensée de Martin Luther. Et vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur Jean-Sébastien Bach, dont Prier 15 jours avec Jean-Sébastien Bach, en édition de l'université.
Et... quatrième édition maintenant.
Et Bach, maître spirituel, une édition Talendier. Voilà, on se réjouit de vous entendre pour cette conférence sur Bach, sa foi luthérienne et le Christ et l'Église. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Inès et merci à vous de me recevoir ce soir. J'ai très bon souvenir de nos conversations et de la conférence que j'avais partagée avec vous l'année dernière sur l'écriture sainte et le statut de la Bible dans l'herméneutique protestante. Et aujourd'hui, ce soir, donc, c'est Johann Sebastian Bach. Huitième et dernier enfant de Johann Ambrosius Bach et Maria Elisabetta Lennerich. Il naquit le 21 mars 1685 dans la petite cité allemande de Eisenach, en Thuringe. Et il fut baptisé trois jours après. Il était né un samedi. Et à l'époque, on baptisait souvent le jour même ou le lendemain, sauf le dimanche. Ce n'était pas l'usage, d'ailleurs, pour l'Église catholique non plus. Donc on l'a baptisé le troisième jour, ça ne s'invente pas, le troisième jour, le 23 mars 1685, dans l'église Gorgenkirche, l'église Saint-Georges de Eisenach. Et il reçut à ce moment-là les prénoms de ses deux parrains, Johann Georg Kohr, donc Johann, qui était garde forestier du prince de Saxe-Weimar-Eisenach, et Sébastien Nagel, qui était, comme son père, musicien de l'hôtel de ville d'une autre petite cité princière, pas très loin de Eisenach, qui s'appelle Gotha. Johann Ambrosius Bach était Hausmann, comme on dit en allemand, ça veut dire le musicien de l'hôtel de ville. C'est un fonctionnaire municipal, mais les choses de l'État et de l'Église en cette époque, et en Allemagne particulièrement, sont des charges communes. Le musicien du prince est aussi celui de l'Église et celui de la municipalité. Ce qui est important pour notre approche de ce soir, la foi luthérienne de Johann Sebastian Bach, c'est qu'il a toujours vécu, à l'exception d'une toute petite période à Köthen, dans un environnement luthérien. De sa naissance à sa mort, Johann Sebastian Bach est enraciné dans non seulement la foi, mais la culture de l'Église luthérienne de l'Allemagne centrale. Son père doit, en particulier, avec d'autres musiciens de la commune, jouer tous les jours, à certaines heures, les mélodies des chorales, les mélodies de cantiques de l'église, du haut du clocher du Rathaus, de l'hôtel de ville, pour indiquer l'heure aux habitants de la ville, avec donc une musique qui est celle que le dimanche précédent, le dimanche suivant, on aura chantée, entonnée dans la communauté qui se rassemble au Gottesdienst, au service divin, l'équivalent de la messe. Pour nous, les luthériens, nous disons le service divin. D'autres protestants disent culte, nous disons service divin, en allemand Gottesdienst. Les écoles qu'il a fréquentées dans sa jeunesse, orphelin, puis accueilli par un de ses frères aînés, à Ordruf en particulier, toutes les écoles, toute sa formation scolaire, jusqu'à sa première embauche auprès du duc de Weimar, se situe dans un climat d'orthodoxie luthérienne. Il faut savoir qu'à l'époque de Barth, il y a deux grands courants qui traversent les communautés luthériennes de l'Allemagne centrale. Une façon qu'on appelle, alors qu'il ne faut pas confondre avec l'orthodoxie orientale, mais qu'on appelle l'orthodoxie luthérienne, qui est une approche très institutionnelle de la foi en Église. Il faut connaître le catéchisme par cœur, il faut aller à l'office, au Gottesdienst tous les dimanches. On est bien conscient que l'Église et la société sont la même réalité. Et un autre courant qui s'appelle le piétisme, qui tente de toucher les croyants au-delà de ce qu'ils savent et de ce qu'on leur transmet. La foi luthérienne, c'est une doctrine très sûre. Depuis donc, le réformateur, au commencement du XVIe siècle, au milieu du XVIe siècle, jusqu'à cette époque, donc fin XVIIe pour Barth, et qui va se prolonger, en gros, jusqu'au XIXe siècle en Allemagne, la doctrine est très sûre, et elle est apprise, et elle est prêchée, et elle fait partie de ce que doit connaître un citoyen d'une ville allemande pour même pouvoir exercer une profession et être un notable, être un élu municipal. Les choses sont imbriquées. L'autre courant auquel Barth est au commencement beaucoup moins sensible parce que ce n'est pas celui dans lequel il a grandi. C'est le piétisme qui se propose de rendre plus humain, plus charnel, plus sensible cette foi que l'on connaît, que l'on assume, que l'on transmet. Et ce piétisme est représenté en particulier par deux grands penseurs pragmatiques. Spener, d'origine alsacienne, qui a initié des rencontres de partage biblique, des petites assemblées familiales spirituelles dans les maisons ou dans les lieux d'église pour se sentir concerné par l'appel de la présence du Christ. L'idée même d'une conversion à Jésus-Christ par le cœur. Ce que n'enseigne pas nécessairement l'orthodoxie luthérienne qui dit qu'il faut croire en la Sainte Trinité et réciter les choses solennelles de l'enseignement de l'Église. Dans le piétisme, un autre personnage, Franke, qui est contemporain de Spener et donc de Barth également, a créé une immense institution pour les enfants, et spécialement les enfants pauvres et les orphelins, une institution qui existe encore aujourd'hui à Halle, qui est, soit dit en passant, la ville de naissance de Händel, qui lui aussi est né dans un contexte d'une orthodoxie luthérienne prêchée et à laquelle il a adhéré. Cet autre personnage, donc Franke, est l'illustration que l'appel de la présence de Jésus-Christ produit des œuvres en luthéranisme, qu'il ne faut pas se contenter de savoir la foi et d'être participant au rendez-vous de l'Église, mais que une dimension subjective et intériorisée rend davantage en proximité de ce Dieu que l'on professe de toute manière sous sa forme trinitaire, etc. Alors ces deux courants, on les retrouve en fait comme en une résolution, pour prendre un mot musical, qui a été très cher d'ailleurs au fils de Barth, Carl-Philippe Emmanuel, quand il parle de l'œuvre de son père, la résolution, tout doit être résolu. La résolution de l'orthodoxie et du piétisme se trouve dans la musique de Barth, sans contradiction. Il est très fidèle à la doctrine. Et en particulier, il a dans sa bibliothèque, une bibliothèque étonnante pour l'époque, elle a plus de livres que celle du plus savant des pasteurs des environs de là où il a exercé son ministère de musicien. On connaît sa bibliothèque par l'inventaire qui a été fait par un notaire après sa mort. Et dans cette bibliothèque, il y a deux éditions complètes en langue latine et allemande des œuvres de Martin Luther. Il y a une Bible qui est très fameuse parce que vous la voyez reproduite souvent si vous cherchez un peu sur Internet, une Bible que Barth a acquise en 1733 et il a marqué la date et son nom, et qui est une Bible commentée par l'un des savants de l'université de Wittenberg, les plus strictes dans l'orthodoxie luthérienne. C'est le texte de la Bible traduite par Martin Luther, avec des commentaires qui donnent l'interprétation de l'écriture pour les lecteurs. Il y a toujours un magistère en protestantisme, ne croyez pas que chaque chrétien protestant prend une Bible et lit dans son coin et se sent en ligne directe de connexion avec le Seigneur et sa parole. Il y a toujours des enseignants, et surtout dans le luthéranisme du XVIIe siècle allemand, il y a une manière de comprendre la parole, d'y trouver Jésus-Christ, de le connaître et de l'aimer, et spécialement, bien sûr, le développement théologique que Luther a remis à l'honneur au moment de la Réforme, qui est la doctrine de la justification par la grâce saisie au moyen de la foi. Dans la grande Bible en deux tomes qui se trouve dans l'inventaire des livres qu'avait chez lui à Leipzig Johann Sebastian Bach au moment de sa mort, dans ces deux grands tomes, il y a toute l'expression de la plus pure théologie luthérienne en regard du texte sacré. Et cette Bible, comme beaucoup d'autres qu'il a possédées, parce que je crois moi qu'il y a eu plus de livres encore que ceux qui sont recensés dans l'inventaire, parce que probablement tout naturellement sa veuve Anna Magdalena, son fils aîné, en tout cas celui qui prend le flambeau à la suite, Carl Philipp Emmanuel, et d'autres de ses enfants ont conservé des livres plus familiers encore de l'intimité de lecture et de spiritualité de leur époux et père. Donc, d'autres Bibles, parce qu'il n'a pas rencontré pour la première fois l'Écriture sainte en 1733, comme vous le lisez parfois sur des commentaires de l'œuvre de Bach, il avait une Bible qu'il acheta en 1733, mais non, il a lu la Bible à l'école, l'école pour les enfants, où il a été scolarisé, et puis ensuite, toute sa vie, il lit l'Écriture sainte, et il en connaît beaucoup de passages par cœur, et il a annoté même ce fameux grand exemplaire de 1733, mais d'autres encore. Il subsiste deux autres Bibles qui ont été retrouvées depuis, dont une qui a été offerte au moment de la confirmation de l'un de leurs enfants. Dans cette bibliothèque, il y a aussi énormément de livres de théologie. C'est pour ça que je dis que c'est une bibliothèque au regard des inventaires que l'on connaît d'autres personnages, et en particulier des pasteurs de la même époque, donc qui ont besoin de livres pour préparer leurs sermons et réfléchir et enseigner, bien sûr, correctement. Il y a une quantité impressionnante de livres de la pure orthodoxie luthérienne, comme cette Bible, bien sûr, mais d'autres écrits de ce professeur qui s'appelait Calof, et puis en manière latine, Calovius. Il y a des livres contre le calvinisme. Il y a des livres contre le catholicisme, évidemment, surtout là je vais lire dans un instant l'engagement qu'il prendra comme cantor à Leipzig de ne professer qu'exclusivement la foi luthérienne dans son service d'église. Et puis il y a, à côté de tous ces livres qui sont donc du courant de l'orthodoxie, de la pure tradition, directement de Martin Luther jusqu'à ses contemporains de Bach, il y a les livres du piétisme. Et dans les livres du piétisme, il n'y a pas vraiment la contradiction avec cette saine doctrine, il y a l'appropriation subjective, intériorisée, presque mystique. Il faut savoir qu'au début du XVIIe siècle, en Allemagne, beaucoup de théologiens luthériens ont redécouvert et édité des ouvrages des mystiques rhénans du XVe siècle. En particulier, je pense que vous les connaissez au moins de nom, peut-être les fréquentez-vous également, Johann Tauler, qui était un dominicain de Strasbourg et de Bâle, qui a laissé des sermons dans lesquels il y a vraiment des rencontres avec le Christ, des propositions de cœur à cœur avec le Christ, qui sont assez éloignés de l'enseignement froid et objectif des catéchismes. Maître Eckhart et d'autres encore, y compris un livre plus ancien que ces mystiques du XVe siècle, de la région du Rhin, d'où le nom de mystique rhénan, L'imitation de Jésus-Christ. Ce sont les théologiens et les éditeurs luthériens dans l'Allemagne piétiste du commencement du XVIIe siècle qui éditent et réédite, il y a des quantités de nombre d'éditions, ses ouvrages pour les chrétiens luthériens. Et cette redécouverte, Barr en bénéficie un siècle plus tard parce qu'on trouve les livres de Tauler, par exemple, que Luther aimait beaucoup déjà en son temps. Luther a une dimension médiévale mystique très, très évidente hein, quand on s'approche de, vraiment, non seulement de sa personnalité, mais de ses écrits. Il n'est pas seulement celui qui assure la théologie, mais il est aussi celui qui amène à la rencontre du Christ et qui envisage bien qu'il y ait une conversion vers le Christ, que tout ce que l'on reçoit du témoignage des Écritures saintes et de la théologie doit mener à une expérience personnelle et en Église avec le Christ Jésus. Et donc, on trouve en particulier, je vais vous citer un exemple pour que vous vous rendiez compte de la littérature que le soir, Johann Sebastian lit à Anna Magdalena au coin du feu, on peut tout à fait les imaginer, ouvrant les quatre livres du vrai christianisme qui sont écrits en allemand par Johann Arndt. Arndt, c'est vraiment celui qui est emblématique de ce courant de piétisme enraciné dans une mystique de la fin du Moyen-Âge et qui devient actuelle pour les chrétiens allemands du XVIIe siècle. Ce n'est pas de la nostalgie, ce n'est pas des livres on s'intéresse par curiosité à ce qu'on disait au Moyen-Âge. C'est vraiment des livres qui deviennent les livres de la présent, de l'actualité, de la foi et de l'exercice du métier de chrétien. La première édition est de 1605, de ce livre de Fatima IV, du vrai christianisme. Alors on y lit par exemple, au sujet de l'union à Christ, comment chez un vrai chrétien, Adam doit mourir quotidiennement et Christ vivre en lui. Ou encore, comment la théologie de la croix se manifeste. Donc tout ce qu'on peut conceptualiser du sacrifice de la croix se manifeste dans l'union vivante avec le Christ par la médiation de la prière. D'autres auteurs encore que Johann Arndt vont plus loin, mais rejoignant une dimension que Luther avait mis en exergue dans le traité de la liberté du chrétien, qui sont les épousailles du Christ et de l'âme chrétienne. Luther a de très belles pages, je ne veux pas lire trop d'extraits, mais Luther a de très belles pages, dans le trait, même ligne seulement parce que ce n'est pas très long, sur le don que Christ fait à son épouse, l'âme, pas seulement l'Église, hein, mais l'âme pécheresse, en lui demandant de lui donner, elle, l'épouse, donc notre âme, tout son péché, toutes ses dimensions de malheur et de mort, afin qu'elle soit engloutie en l'époux et que lui, en retour, donne toute sa grâce et sa miséricorde. Ça vient du Moyen-Âge aussi, ces choses-là. Hein. Mais Luther l'avait mis dans un de ses livres de 1520, qui a eu un très grand succès en son temps, et qu'on retrouve dans plusieurs des écrits soit de Arndt, donc de le véritable christianisme, soit dans d'autres, il y en a un qui s'appelle Müller, et un autre qui s'appelle, je trouve la petite citation que je veux vous lire, qui s'appelle Gerhard, qu'il ne faut pas confondre avec Paul Gerhard, mais je passe là-dessus. Voici par exemple, « Je veux me marier », alors c'est un texte de 1606, dans les méditations sacrées de Johann Gerhard. « Je veux me marier avec toi pour l'éternité, dit le Christ à l'âme croyante. Réjouis-toi dans le Seigneur, âme croyante, et sois joyeuse en ton Dieu, car il t'a revêtue des vêtements du salut, comme une épouse est revêtue de ses ornements. Combien est grande la dignité de la créature de Dieu, puisque le Créateur lui-même veut se marier avec l'âme croyante. Combien grande est sa miséricorde, puisque lui, le plus beau, n'a pas dédaigné choisir comme épouse l'âme totalement défigurée par la contamination du péché. Et puis encore, notre âme est d'origine céleste, comment pourrait-elle assouvir son désir dans le monde? Elle trouve le repos en Christ, dans ses blessures. Notre âme est l'épouse du Christ, c'est à lui seul qu'elle doit s'attacher. Les choses de la doctrine comme les choses de ces rencontres mystiques, personnelles, intimes avec le Christ se retrouvent dans l'œuvre de Jean-Sébastien Bach dans une manière de résolution assez étonnante, parce qu'on aurait pu penser qu'il aurait fait le choix de l'un ou de l'autre. En réalité, il est très certainement du premier mouvement du courant orthodoxe. Et il y en a beaucoup d'indices, je ne vais en dire qu'un seul. Quand il choisit les parrains de ses enfants, il choisit toujours des gens qui sont des fidèles ou des pasteurs. Il y a un exemple très fameux quand il fait baptiser Katharina Dorothea, qui est une de leurs filles, à Mühlhausen en 1708. Il demande il y a deux pasteurs, il y en a un qui est piétiste et l'autre qui est orthodoxe et qui se chamaille en permanence devant toute la communauté et qui ont leurs partisans de chaque côté. Bach choisit le pasteur Elmar, qui est un tenant très farouche de l'orthodoxie luthérienne. On pourrait trouver beaucoup d'autres indices que, à titre de croyant, il se situe bien dans ce courant, mais il est ouvert à l'autre, et il en propose finalement dans sa musique, et l'une et l'autre, comme si, avec lui, s'accomplissait le meilleur de chacune de ses tendances, comme si dans l'une et dans l'autre, il manquait quelque chose. Il faut au piétisme le socle de l'orthodoxie, et il faut à l'orthodoxie la vivante foi du piétisme. Et c'est Bach qui réalise cela dans sa musique. Les pasteurs du consistoire, qui lui commandent d'accepter quelques-uns de ses amis comme celui que j'ai cité, ne comprennent rien de tout ça. Ils lui demandent de faire de la musique fonctionnelle. Si on accepte le temps où Bach a été au service d'un prince réformé, d'un prince calviniste, plein de charme pour lui, le prince Léopold d'Anhalt-Köthen, excepté ce temps-là où il n'eut pas de musique religieuse à composer, parce que dans le calvinisme de l'époque, dans la petite principauté calviniste de Köthen, on n'utilise aucun instrument à l'église, et on ne fait que chanter les psaumes a cappella, comme les huguenots français, vous en avez entendu parler dans les Cévennes, avec le magnifique psautier que Jean Calvin a initié à Genève, avec Clément Marot comme traducteur, et ensuite Théodore de Bèze, ou l'autre psautier, que celui de Genève, celui de Lausanne, où aucun instrument, et même Calvin avait fait détruire les orgues à Genève, et on ne chantait que la parole de Dieu. Alors le prince Léopold, qui est calviniste convaincu, puis qui doit veiller sur sa petite principauté, il a besoin seulement d'un musicien pour le divertissement. Et c'est à cette période, que moi je considère comme la plus heureuse d'ailleurs de toute la vie de Johann Sebastian Bach, qu'il va composer plusieurs de ses pièces instrumentales, en particulier les 6 suites pour violoncelle et beaucoup d'autres choses, les suites pour violon et clavecin obligé, et c'est que du bonheur pour lui. Il n'a pas la contrainte des pasteurs avec leurs règlements qui lui demandent de formater la pièce musicale d'orgue qui doit précéder le chant de l'assemblée et qui ensuite doit intervenir à tel autre moment avec un motet ou une cantate. Toutes choses qui sont codifiées à l'époque et pour lesquelles Bach ne prend pas d'initiative, puisque quand il est au service des églises luthériennes, qui est donc la petite exception 1717-1723 chez le prince calviniste de Köthen, où il ne fait que de la musique de cour finalement, tout le reste du temps, avant, à Weimar, encore avant à Arnstadt, à Mühlhausen, à Weimar, puis après bien sûr à Leipzig, là il est dans un monde pensé avant lui, codifié avant lui. Et il ne prend pas d'autre initiative qu'avec une finesse incroyable d'élaboration, de changer les tonalités, de faire intervenir des instruments ou d'inverser des passages des livrets de cantate ou insérer une strophe de cantique là où on ne l'attend pas. Et on peut guère lui en faire reproche parce que les gens écoutent ça de loin sans entrer profondément dans la musique. D'ailleurs, à ce propos, par exemple, à Leipzig, quand il fut nommé cantor, c'est-à-dire directeur musical, il ne faut pas traduire par chantre, cantor en allemand c'est celui qui dirige la musique de toute une église, et pour Leipzig c'est la musique municipale, donc il a en charge deux églises, la plus célèbre étant la Thomaskirche, l'église Saint-Thomas, l'autre presque plus belle, et où il a fait entendre tellement de cantates et de passions, la Nikolaikirche, l'église Saint-Nicolas, mais aussi les deux autres églises de la ville, et même l'église de l'université, ça en fait cinq, et puis les écoles qui sont attenantes. À Leipzig, le service divin du dimanche matin, ça dure 3 heures. Parce qu'il y a de la musique et des chants, et qu'il y a un millier de gens qui sont à peu près dans l'église, et la plupart des notables n'arrivent pas à l'heure. Pour bien se faire remarquer du pasteur qui est en chaire, alors que leurs tribunes aux notables sont en face de la chaire, ils s'arrangent pour laisser passer tout le premier temps de la liturgie et se montrer au bon moment. Ils sont assis au moment où le pasteur monte en chaire et va prononcer son sermon. Il y a des règlements qui sont affichés, placardés, il en subsiste quelques-uns, qui étaient donc visibles, comme ici sur votre tableau d'affichage, un petit règlement qui dit aux fidèles de ne pas arriver en retard à l'église au moment du sermon. C'est écrit noir sur blanc et ça a été répété plusieurs fois sur la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Pourquoi les gens arrivent-ils en retard? Parce que, tout simplement, ils sont dans une démarche un peu mondaine, en tout cas c'est notable, pas le peuple qui est en bas, mais les notables et les dames sont en bas. Alors il est dit aussi dans le règlement qu'il ne faut pas boire du café, par exemple. Ce qui indique bien que les gens buvaient du café à l'église, dans les tribunes. Et ensuite, ou du chocolat, ou autre chose. Et il y a aussi un indice tout à fait stupéfiant pour nous aujourd'hui, c'est d'interdire aux messieurs qui sont dans les tribunes d'envoyer des papiers pliés en forme d'oiseau avec des mots sur les dames qui sont en dessous. Et j'en sais pas. Et si je raconte cela, c'est parce que le moment où arrivent ces gens importants de la municipalité, c'est des bourgeois, c'est des commerçants, c'est pas des gens qui aiment l'art et la culture comme le prince Léopold, qui a quitté à grand regret Johann Sébastien. Ces gens, donc, arrivent à quel moment, lorsque le pasteur monte dans la chaire? Ils arrivent au moment où, après l'évangile, on entend la cantate. Ça veut dire que la plupart de ces personnages, sans doute par centaines, par milliers peut-être, si on prend toutes les années de 1723 à 1750, malgré les remontrances du consistoire et les petits placards que j'ai dit, n'écoutaient pas la musique de ces cantates qui étaient chantées et accompagnées d'instruments dans l'église au moment de leur arrivée. C'est dire le décalage qu'il y a entre notre façon béate et toute silencieuse de réceptionner cette musique extraordinaire de Jean-Sébastien Bach. Ses contemporains n'ont pas conscience qu'il est le meilleur et qu'il leur propose une musique qui fait entendre le ciel sur la terre. Mais Bach s'en moque. Je dis dans mon livre, je force un peu le trait, mais que les premiers auditeurs de Bach et auditeurs suffisants pour lui, ce sont les anges. Quand il compose de la musique, avec tout son bagage intellectuel, que j'ai tenté de dresser brièvement, d'orthodoxie, de piétisme, de livres, etc., de Bible, de tout cet univers qu'il a vraiment conscientisé, auquel il a adhéré, et qui lui fait produire dans l'écriture musicale, sur les papiers, avec l'encre, des notes les unes derrière les autres, avec le choix des instruments, les intonations, etc., l'arrivée de telle voix par rapport à l'autre, etc. Il le fait premièrement, non pas pour les auditeurs de son temps, mais pour les anges. Et ça lui suffit que les anges l'écoutent. C'est même une exigence pour lui de responsabilité de faire une musique qui honore Dieu. Il y a plusieurs annotations dans sa Bible où il parle de l'honneur que l'on doit rendre à Dieu par la musique, et il se réfère à David et aux musiciens de l'Ancienne Alliance. Et peu lui importe qu'on apprécie ou non sa musique. D'ailleurs, il est toujours bougon et jamais satisfait non plus de la manière dont la musique est restituée, alors qu'il l'a si magnifiquement composé avec un sens mathématique, mais même ésotérique, et je vous fais une allusion tout à l'heure, de numérologie littéralement, et avec des codes théologiques sous-jacents que personne n'aperçoit, les cantates. Il doit produire, dans le temps de Leipzig, je ne peux pas revisiter toute sa vie, hein, il y a des moments où il n'a pas de cantates à écrire, Et le moment où il en a le plus à composer, c'est quand il est à Leipzig. Il en a fait auparavant, une dont je vais vous montrer quelque chose dans un facsimilé dans un instant, à Mühlhausen, et puis à Weimar, où on en demandait une par mois, sauf en certaines périodes de l'année, selon les fêtes, etc. À Leipzig, c'est tous les dimanches. Tous les dimanches, il doit produire, donc de dimanche en dimanche, une cantate, c'est-à-dire une intervention musicale avec des chanteurs et des instruments, si possible même avec des solistes, pourquoi pas avec deux chœurs, avec l'orgue aussi, pour insérer avant et après la prédication. L'homélie du pasteur, qui dure une heure et quart à l'époque. La conférence ne durera pas plus, je vous le promets. La cantate, donc, c'est une composition qui dure en gros entre 12 et 20 minutes, selon le livret disponible, parce qu'il y a des gens qui écrivent au kilomètre des livrets pour chaque dimanche mettre en ordre des versets bibliques, mais souvent ce n'est pas les versets bibliques, c'est inspiré de l'évangile du jour ou de certains passages du lectionnaire. À l'époque, l'église luthérienne, d'ailleurs comme aujourd'hui, a le même lectionnaire que l'église catholique. C'est-à-dire en Allemagne, c'est le lectionnaire carolingien. Donc sur une année, c'est toujours les mêmes textes pour les fêtes, pour les temps de l'Avent, de Carême, et en avant-Carême, on ne chante pas de cantate. On ne devrait même pas utiliser les instruments à l'église. Donc, il n'y a rien du tout, excepté les passions, bien sûr, pour le Vendredi Saint. Donc, le bar doit composer, d'un dimanche sur l'autre, une cantate. Alors, il a un procédé qu'on a plutôt redécouvert à l'époque moderne, qui s'appelle la parodie. C'est-à-dire, il utilise des choses qu'il a déjà écrites, puis les transforme, et en particulier des cantates profanes, ou des airs, ou des morceaux de pièces diverses, qui ont servi pour des fêtes princières, par exemple, ou pour des fêtes municipales, et qui l'utilisent en changeant simplement parfois la tonalité, en général, en montant d'un ton ou la descend, en changeant les instruments, etc. Mais comme personne n'a jamais entendu la chose précédente, qui n'a été donnée qu'une seule fois, et qui n'est pas imprimée, à l'exception de ce que je vais vous montrer, la plupart des œuvres de Bach de son vivant n'ont pas été imprimées. Donc une fois que quelque chose est chanté et appris, ça part dans la sacristie et ça reste dans le placard, jusqu'à ce que Mendelssohn en découvre au XIXe siècle, et puis bien sûr d'autres. Mais en réalité, on continuait de reprendre des choses déjà données 2 ou 3 ans auparavant. Donc la première astuce, c'est d'utiliser tout un corpus disponible, qui est chez lui, il connaît, il a la mémoire de ce qu'il a fait. Alors, c'est assez amusant de décrypter. La chose la plus intéressante, là, par rapport à la foi de Bach, c'est que c'est toujours dans le même sens. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune cantate sacrée qui devienne cantate profane. Il n'y a aucune œuvre de musique religieuse qui devienne musique profane. L'inverse, oui. C'est ce qu'on appelle donc le procédé de la parodie. L'autre astuce, c'est de jouer les pièces des autres musiciens. Soit de son prédécesseur direct, Johann Kuhnau, qui est mort juste avant que le poste donc soit libre pour lui, en 1722, il a postulé en 1723. Donc, ce qui veut dire l'estime en laquelle Bach portait certains de ses prédécesseurs, certains des membres de sa parenté, parce qu'ils sont une bonne trentaine de musiciens de la famille Bach, de l'ancien temps ou de ses cousins, qui écrivent des choses intéressantes. Et parfois, ce sont des élèves. Ce sont des élèves, comme par exemple le fameux Goldberg, qui donne son nom aux variations pour aider à ne pas s'endormir un aristocrate allemand. Ces deux procédés-là, la parodie et, en son absence ou en sa présence, jouer la musique des autres, puisque ces messieurs du consistoire, etc., ne sont pas si regardants, ils sont regardants sur que ce soit bien au bon moment et que les paroles ne soient pas contraires à la doctrine, etc. Et pour le reste, ils ne sont pas musicologues, ils n'ont pas d'oreille, d'esthétique musicale. Donc, ils ne savent même pas que c'est pas de Bach. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a quelques morceaux de cantates qui peuvent subsister, qu'on retrouve parfois dans des bibliothèques ou dans des églises, en Allemagne surtout, dont on ne sait pas trop l'attribution. Ça peut être de Bach, mais ça peut être aussi un de ses meilleurs élèves ou un de ses cousins. Et ce qui veut bien dire aussi que son art fait partie de toute une école. d'écriture musicale. Et alors la troisième chose, c'est qu'une fois qu'il a fait les trois années à peu près, ne croyez pas qu'il y a trois années différentes comme aujourd'hui à ABC, il n'y en a qu'une seule, je le répète, mais une fois qu'il a à peu près fourni pour tous les dimanches quelque chose, il s'en moque un peu et il laisse jouer donc, les élèves et on reprend quelque chose qui a été joué il y a trois ou quatre ans. Les passions ont ce modèle-là aussi, hein, les grandes passions, les deux seules qui subsistent en tout cas, à Saint-Mathieu et à Saint-Jean, elles ont été données plusieurs fois et avec des variantes. Alors si je raconte tout ça, c'est aussi pour dire que il a une semaine pour écrire quelque chose, même si, vous avez compris, il reprend le matériau ancien, mais il faut ensuite que les musiciens apprennent. Et il faut, avant cela, recopier les différents pupitres pour les chanteurs et les musiciens. Alors on emploie les garçons, parce que ce ne sont que des écoles de garçons, hein, en ce temps-là, à Leipzig. Il faut que les jeunes gens qui ont la plus belle écriture se mettent à recopier le manuscrit de Bach pour chacun des pupitres de chanteurs et pour les instrumentistes. Alors ces jeunes gens, comme on l'a peut-être tous été, sont impatients de terminer au mieux leur travail pour passer à la cour de récréation ou aller faire autre chose, taquiner les jeunes filles plus loin dans la ville, je ne sais. Mais en tout cas, certains font des fautes. Et les fautes, elles arrivent dans les cahiers le vendredi, parce que c'est jeudi qu'il faut faire le recopiage. Le vendredi, tout doit être rassemblé. On fait parfois une répétition le vendredi, on la fait surtout le samedi, c'est la veille, une générale, comme on dirait aujourd'hui, et le lendemain, on doit donner la cantate, voilà, avec ses fautes, avec les gamins qui ont la voix enrouée, parce que c'est pas évident non plus d'avoir une troupe qui va chanter une musique de professionnel alors que ce sont des élèves, ce sont des jeunes gens. Il y a les solistes qui sont des professionnels, alors ils arrivent, ils sont enroués aussi, ou bien ils sont malades, il y en a qui ne viennent pas, les instruments qui ne sont pas bien accordés, et ainsi de suite. Alors Bach, pour lui, l'interprétation, ce n'est pas toujours une réussite. Vous direz, vu la qualité d'écoute des gens dans l'église, c'est peut-être pas si grave que ça. Mais quand même, parce que lui, il sait que c'est pour Dieu tout ça. Puis il y a quand même beaucoup de gens qui sont attentifs. Ils sont tellement attentifs qu'il y a une dame qui s'écrit au milieu d'une passion, mais on se croit à l'opéra ici. Elle a été rapportée par un journaliste du temps en disant que c'est Olibrius à Leipzig qui fait entendre de la musique d'opéra à l'église. Bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se rapproche de la mise en scène de l'opéra dans la musique de Bach. Mais c'est donc pour dire que la finition n'est pas bonne au moment où l'exécution elle a lieu tant bien que mal. Hein, et il n'y a pas les applaudissements des gens à la fin. Ne croyez pas, c'est inséré dans la liturgie et c'est très rigoureux et solennel. Et après, on range les manuscrits dans la sacristie ou ailleurs, et puis c'est terminé. Voilà. Et on n'imprime pas. Donc ça a servi qu'une fois, mais le lundi matin, il faut que Bach recommence l'écriture d'une cantate de 20 minutes, avec des airs, des récitatifs, des chœurs, etc. Le choix des instruments. Quel homme prodigieux et génial, n'est-ce pas? Alors maintenant, il est peut-être temps d'écouter l'un ou l'autre morceau que je voulais vous faire entendre, même si j'ai bien conscience de ne pas couvrir complètement le sujet de la foi luthérienne de Jean-Sébastien Bach. Juste avant d'entendre, je me permets de lire dans mon livre, mais en fait je lis un texte que Bach a signé, qui est son adhésion aux confessions de foi luthériennes, de l'église luthérienne, lorsqu'il a été embauché, et je vais vous faire écouter d'ailleurs un extrait de la cantate probatoire qui va faire qu'on va l'embaucher, le 13 mai 1723 à Leipzig, devant la municipalité et les pasteurs du consistoire. Cette adhésion que vous allez entendre là maintenant, et bien sûr il l'a dit en allemand, et il l'a signé, mais le manuscrit existe dans les archives de la ville de Leipzig. Ses prédécesseurs l'ont signé et ses successeurs le signeront aussi. Moi, Johann Sebastian Bach, appelé en cette ville en qualité de cantor, confesse par la présente que je me conformerai aux articles de foi fondés en tout point sur l'Écriture sainte, que je m'y maintiendrai avec la grâce de Dieu et que je donnerai jamais mon approbation à ce qui va contre eux. Moi, Johann Sebastian Bach, appelé en la ville de Leipzig, en qualité de cantor, confesse par la présente que les points relevés dans les doctrines condamnées sont effectivement faux et iniques. Je suis désolé de vous dire qu'il s'agit de points de théologie catholique ou calviniste. Que je n'y adhérerai jamais et ne les défendrai en aucune manière. Leipzig, le 13e de mai 1723. Il n'y a pas de problème, ce sont ses convictions. Ne croyez pas qu'on l'a forcé, qu'il faut prendre le poste et que ça l'intéresse. Il a postulé pour ça. Sa candidature s'est passée dans de curieuses façons, je ne vais pas trop m'étendre, mais plusieurs étaient sur les rangs et on avait pensé surtout à quelqu'un plus célèbre que lui en son temps, qui est son grand ami à Hambourg, qui est Telemann. Telemann, il se tâte, il n'est pas sûr, il est bien à Hambourg, il a son bon salaire, parce qu'ils sont tous à avoir des salaires. Barre aussi, quand il postule, il dit qu'il faudra me donner tant, c'est toujours plus que le poste précédent. C'est assez curieux, ça. Enfin, c'est tout côté très humain aussi. Hein. À Amstatt, il avait un salaire qui est quasiment doublé à Mulhausen, qui est également doublé à Weimar. Et puis alors après, il dit, ben, maintenant que je suis cantor de Leipzig, il faut me payer ça et ça, de telle façon que je puisse entretenir ma maisonnée, trouver du papier pour écrire, être toujours disponible à tout ce qu'on attend de moi. Je ne sais plus maintenant ce que je voulais dire en me faisant cette digression avec l'argent de réclame. Oui, quand il est candidat, voilà. Et finalement, on auditionne l'un ou l'autre, etc. Et puis, il y a Barre sur la liste. Et on dit que comme on ne peut pas avoir les meilleurs, ben on va se contenter du moins bon. Et c'est écrit dans les registres de Leipzig, ça. Le moins bon, c'est Johann Sebastian Barre. Voilà. Alors après, sans doute, ils ont dû se rendre compte que tout de même, ce personnage les a emmenés beaucoup plus haut que tous les prédécesseurs et qu'aucun ne fera dans la suite. Je vais donc vous faire écouter, mais avant cela encore, puisque je l'ai apporté, voici le facsimilé d'une partition de Johann Sebastian Barre en manuscrit. C'est qu'un facsimilé, vous pouvez le tenir, le toucher, le renverser de l'eau dessus, c'est pas grave, pour qu'il soit bien relié. Alors, c'est la cantate Gott ist mein König, Dieu est mon roi, qui est la commande du conseil municipal de Mulhausen, pour une fête vraiment de la ville de Mulhausen. Mais on va à l'église pour faire la fête du conseil, l'élection au conseil municipal. Voilà. Heureux temps où chaque fois qu'il y avait une élection, on demandait à un compositeur connu et au service de l'église de composer une cantate spécifique avec sur un texte spécifique. Alors, c'est la numéro 71 pour ceux qui voudraient l'écouter, et qui est la seule cantate imprimée du temps de Barre. Parce que le conseil municipal, tout à fait satisfait de cette heureuse musique dans la célébration qui avait été commandée, a voulu en garder le souvenir. Alors, je n'ai pas apporté la version imprimée parce qu'elle se distingue de la version manuscrite. Tout est semblable dans la version imprimée, c'est-à-dire bien sûr la notation musicale, y compris le titre et la répartition des instruments, sauf cette petite mention qui se trouve en haut, que l'on peut faire passer, qui est Jesu Juva, que Barre souvent a placé soit en tête, soit en finale, mais souvent en tête de certains de ses manuscrits. Donc c'est pour lui, puisque ça ne passe pas à l'impression, ça veut dire que Jésus me soit en aide. Avant de composer, il invoque Jésus pour l'assistance du Seigneur dans le travail qu'on lui demande de fournir. Ce qui est frappant et récurrent, c'est que ces petites annotations qui sont sur les manuscrits, comme vous le voyez ici tout en haut, ou tout en bas, le fameux SDG, Soli Deo Gloria, à Dieu seul soit la gloire, qu'il n'a pas écrit partout, mais qu'il a écrit sur plusieurs de ses manuscrits, c'est pour enserrer toute sa composition en la présence de Dieu. Il appelle le secours de Jésus à ses côtés, être en présence de Jésus, et il termine en disant « Ce que j'ai écrit, c'est pour la seule gloire de Dieu. » Et ces lettres, JJ ou SDG, ne figure pas dans les impressions, quand il y a eu des impressions, parce qu'il n'y a pas que les cantates, hein, il y a d'autres choses qui ont été imprimées de son temps, comme l'orgel Büchlein ou les chorales Schubler ou certaines autres choses encore, c'est dans son intimité. Mais c'est un signe très fort parce qu'on ne le trouve pas chez la plupart des musiciens de son temps, qui composent, qui font de très jolies choses aussi, catholiques ou luthériens, mais il n'y a pas ces petites mentions. Alors, je vais vous faire entendre, vous ne dormiez pas, je vais vous faire entendre un prélude d'orgue et la première strophe d'un chant d'assemblée qui est le Allein Gott in der Höhe Herr, à Dieu seul sur la gloire dans les cieux, qui est la version allemande du Gloria de l'Église. La liturgie luthérienne a conservé le Kyrie, le Gloria, le Credo, le Sanctus, l'Agnus Dei et le Benedictus dans sa structure de célébration. Et il y a aussi des chants d'assemblée. Et spécialement, le Gloria, la plupart du temps, il faut le chanter. Et depuis Luther, qui avait beaucoup hésité à passer du latin à l'allemand, parce qu'il estimait qu'il fallait que les gens apprennent le latin, tout simplement, et qu'ils n'avaient qu'à chanter les prières habituelles de l'Église en latin, mais finalement, comme personne n'était à la hauteur pour enseigner le latin aux enfants, les pasteurs étant en son temps pas très instruits, malgré ses efforts, on a dit on va le faire en langue vernaculaire. Donc il y a une petite version de Nicolaus Decius, 1525, qui fait passer, c'est une transcription du Gloria latin en Gloria allemand, sous forme de strophe, c'est ce qu'on appelle un choral, un cantique spirituel. Luther va lui-même en composer plus de 30 mélodies et textes, ou avec un musicien de ses amis du nom de Johann Walter. Ce petit chant, il est non pas entonné par des professionnels ou par les élèves de la classe, à Leipzig ou ailleurs, il est chanté par l'assemblée. Et l'une des fonctions du musicien d'église dans les églises luthériennes à cette époque-là, c'est de faire les préludes d'orgue. Vous connaissez certainement beaucoup les deux grandes belles collections, il y en a plusieurs, mais l'autographe de Leipzig et l'orgel Büchlein, le petit livre d'orgue, sont les uns derrière les autres, bien classés selon les temps liturgiques, les préludes à l'orgue qui doivent faire entendre la mélodie qu'ensuite les fidèles vont chanter strophe par strophe. Il y a un répertoire, il y a un livre officiel des églises luthériennes de telle et telle région, même en France, il y a un Gesangbuch, comme on dit en allemand, hein, dans lequel il y a recensé 300, 400, jusqu'à 600 numéros de cantiques, avec des mélodies particulières et des textes sur les différentes périodes de l'année, ou pour la piété personnelle et familiale, ou pour faire office de credo, de gloria, de paternoster. Ce que je vais vous faire entendre, c'est une composition très simple, à l'opposé de ce qui va faire attirer les foudres du consistoire sur Jean-Sébastien Bach, des compositions extrêmement élaborées. Dans une composition très simple, on entend au cantus firmus, c'est-à-dire la voix de ténor, souvent, donc la voix principale, on entend l'énoncé de la mélodie du choral. Comme ça, les fidèles, qui n'ont pas besoin de chercher autrement, « Ah, c'est le choral untel, on le connaît, on tourne les pages, on sait où il est. » Il paraît que c'est à cette époque-là, à Lübeck, avec Buxtehude, qu'on a commencé d'afficher les numéros des cantiques, pour que les gens sachent qu'en sentant le numéro 123, on n'a qu'à tourner les pages, c'est 123. Mais l'habitude plus ancienne dans les églises luthériennes, c'est qu'on reconnaît la mélodie, et donc on tourne la page et on sait qu'est-ce qu'on va chanter, parce que les mots et la mélodie sont ajustés, adaptés. Bach, à la longue, quand il est jeune, vous allez entendre, c'est très, très simple, on entend très bien le Allein Gott, et ensuite la strophe chantée par l'assemblée, mais à la longue, il va, à part le jeu du contrepoint et toutes sortes d'élaborations qui sont pour lui une prédication sur le thème de la première strophe du cantique, faire disparaître complètement, ou presque, le cantus firmus. Il faut une oreille extrêmement exercée pour retrouver les notes de la mélodie, pourtant toute simple, du choral. Il y a un répertoire abondant du XVIe, du XVIIe siècle et de ses contemporains. Lui, il en a écrit que quelques-uns. Il ne faut pas croire que les chorales que vous entendez, Fin des Passions, etc., sont de lui. En fait, il les a harmonisées, il les récupère, il les utilise. Voilà. Et comme il va faire là, les pasteurs du consistoire ont trouvé que sa musique était bizarre. Elle est bizarre. Et on lui fait des reproches, on le convoque. Et il y a un registre à Arnstadt où on lui reproche plein de choses, d'avoir fait monter une femme à la tribune, trop souvent, et même une fois ce serait trop, et qui va devenir sa fiancée et sa première épouse. On lui reproche d'avoir fait un voyage alors qu'on lui avait donné 3 semaines de congé, il est resté 4 mois à Lübeck chez Buxtehude, et comme ça. Voilà. Et en attendant, il s'est fait remplacer par la dite fiancée secrète. Le pasteur se horrifie, etc., on le convoque. Et puis on lui dit aussi, qu'est-ce que c'est que cette musique où on n'entend pas la mélodie? Vous êtes payé pour exercer une fonction. Vous avez un rôle qui est très clair. Vous devez faire entendre la mélodie pour que les gens chantent le bon cantique ensuite. Voilà. Allez, illustration. Numéro 3 et 4. C'est très bref. Hein. Alors voilà le petit prélude. Alors il est numéroté 715, ça veut dire qu'il n'est pas dans les catalogues. Ouais, c'est bien, pour briller là. C'est bon, allez-y. Le petit fioriture comme ça. Il est lancé, il est pas mal. À l'ennui de faire juste l'énoncé comme cette première version là, les 7 périodes, les sept versets de ce petit choral à Langott avec des élans de fioritures comme ça, ça l'intéresse pas. Il veut bien le faire au début, mais à la longue, et il développe, il élabore autre chose, une véritable petite théologie de la prédication, et c'est toujours sur la première strophe. D'ailleurs, cette version-là qu'on a entendue, elle suppose bien, parce qu'on n'a pas de trace des suivantes, que c'était une alternance, comme faisaient les Français d'ailleurs au XVIIe siècle, un peu près un Marchand et les autres, une alternance de orgue, chant, avec les différentes strophes. S'il y en a trois, ça fait trois, s'il y en a 15, ça fait 15. Et à chaque fois, donc, il y a une pièce musicale. Les grandes partitas pour orgue de Bach, qui sont sur des chorales, fonctionnent de cette façon-là, c'est-à-dire qu'elles ont en soi un développement d'écriture et d'esthétique pour explorer tout ce qu'on peut faire sur une mélodie et un instrument, mais elle a aussi une fonction qui est d'alterner avec les strophes chantées. Ça, c'était juste pour vous montrer, vous faire évoquer le métier de musicien d'église, duquel Bach a été contraint de travailler. Avec bonheur quand même, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pour lui un honneur à rendre à Dieu. J'ai choisi maintenant deux extraits de cantates. La première est la cantate 70. Merci. Qui est une cantate pour le dimanche, le dernier dimanche de l'année liturgique. Celui qui va précéder le dimanche du jugement dernier. Chez Luthériens, il y a à ce moment-là un calendrier un peu spécial, peu importe. C'est le 21 novembre 1723 qu'a eu lieu la première audition de cette cantate, en allemand « Varot, betet, betet, varot »,« Veillez, priez, priez, veillez ». C'est un texte de livret, dont on ne sait pas l'auteur, mais pour d'autres, on les connaît, hein, parce que c'est au kilomètre que des messieurs du consistoire, qui se croyaient un peu poètes, écrivaient des textes à mettre en musique. Et Telemann en a mis un millier comme ça en musique. Bon. Bach, c'est beaucoup plus court, hein, il en subsiste à peine 120. Dans cette cantate, je vais vous faire entendre quelque chose de très singulier, pas forcément pour Bach, mais pour vous. Qui est l'énoncé d'un choral par un instrument, qui est la trompette, qu'on appelle tomba dans les versions manuscrites de Bach, l'énoncé d'une mélodie de choral sur un texte chanté d'une autre mélodie, qui est un récitatif. Il faut savoir que dans les cantates de Bach, la plupart du temps, mais pas toujours, et l'exemple sera plus clair pour l'illustration suivante, on commence par un chœur et on termine par un chœur, et souvent c'est une strophe d'un cantique que les gens connaissent. C'est une manière de faire entrer les fidèles dans la musique qu'ils entendent. C'est une appropriation de ce qu'ils vivent, en s'y associant par le chant. Et puis, la cantate se déroule avec une alternance d'air et de récitatif. Je ne vais pas vous faire écouter d'air, qui sont souvent des pièces magnifiques, presque de l'opéra, hein, elle n'avait pas trop de tort, la dame grincheuse de tout à l'heure. Le récitatif, c'est beaucoup plus intéressant. Le récitatif, c'est comme la lecture monastique ou l'énoncé chanté des textes sacrés de la lecture de la Bible dans la liturgie, qui est dans la vieille tradition grégorienne, bien sûr. Hein. C'est, par exemple, dans les passions. Vous avez probablement, je pense, tous entendu déjà une passion, en extrait ou en entier. Il y a des moments où il y a un récitant. Il y a quelqu'un qui énonce. C'est la voix de ténor, en général, qui énonce le récit évangélique. Et le reste, ce sont des airs de lamentation, de joie, de méditation sur ce qui se passe dans les souffrances de Jésus, etc., qui sont des compositions complètement originales, texte et musique. Et puis il y a des strophes de chorale, qui est donc le chant d'assemblée, judicieusement disséminé dans la pièce musicale en entier. Le récitatif, c'est le texte sacré. Et moi, je considère que c'est ce que Bach a le plus élaboré. C'est ce qu'il a le plus finement composé, même si ça a l'air de rien, ça dure 50 secondes, 1 minute 30, parce que c'est le texte même de l'évangile, ou autre chose pour la cantate, comme vous allez voir, mais dans les passions, c'est ce qui vous intéresse le moins en général. Quand les gens leur disent « qu'est-ce que vous aimez comme passage dans la passion ?»« Ah ben j'aime l'air de ce site-là, le choral final, ou le choral de telle section à tel moment. » Et le récitatif, « oh ben non, c'est ennuyeux. » Et c'est pas ennuyeux du tout, c'est au contraire, c'est ciselé, parce que c'est le texte sacré. Et Barre en avait une tellement haute idée de ces récitatifs donc, sur lesquels donc, il déploie une musique, souvent avec simplement la basse continue, c'est-à-dire un instrument, clavecin, violoncelle, ou orgue, petit orgue. Il l'a inscrit dans une des partitions authentiques de l'une des passions à l'encre rouge. La seule chose qu'il a écrite à l'encre rouge, ce sont les récitatifs, et non pas les airs et chorales qui sont à l'encre noire. Bon, ayant dit cela, je vais vous faire entendre maintenant un récitatif de cette cantate 70. Il y a tout un développement sur l'attente du Seigneur, sur l'exhortation à la vigilance. C'est très fondé sur l'écriture, mais ce n'est pas des versets. Barre met très rarement des versets bibliques en musique, croyez-moi. Même dans ses motets, c'est les exceptions, c'est les motets où il y a plusieurs fois des versets qui arrivent comme ça en incise. Voilà. C'est une très longue cantate en deux parties, qui correspond bien au fait que entre la lecture de l'évangile et la prédication, on a entendu la première partie, et puis on recommence de la musique après le sermon. Barre peut anticiper ce que le pasteur est censé avoir dit, et en tout cas d'avoir consolé les gens sur l'avènement de Jésus-Christ, puisqu'on a présenté la colère de Dieu, le jugement dernier à venir, etc. Bon, et que finalement, l'âme va se réjouir parce qu'elle a confiance en Jésus, et qu'elle pourra oublier ses tourments et ses détresses, etc. Et ça conclut la première partie. On redémarre la deuxième partie avec un air de ténor où on se dit consolé, avec la tête relevée, je transcris de l'allemand évidemment. Et puis on passe à un récitatif tout à coup où arrive l'énoncé du grand jour terrible, le grand jour de colère de Dieu. Je vous le dis en français, même si évidemment quand vous allez l'entendre, les mots français ne tombent pas sur les mêmes notes que les mots allemands. Ah, ce grand jour terrible de la fin du monde. On vient d'être consolé, hein, la prédication aussi est censée avoir fait du bien aux fidèles. Hein. Et puis voilà, Jésus va arriver, c'est bien, il nous attend, il a pardonné les péchés, etc. Tout d'un coup, ça surgit un récitatif. C'est très court, vous allez entendre, mais avec une mélodie de chorale en arrière-fond à la trompette. Ah, ce grand jour terrible de la fin du monde et du son des trompettes. De l'inouï et ultime tonnerre, des paroles prononcées par le juge, où s'ouvre la porte de la gueule des enfers. Ne va-t-il pas en mon sein réveiller beaucoup de doutes, de craintes et d'effroi ? Moi, un enfant du péché. Cependant, Yédor, vous en aurez, il y a une petite tout à coup, un petit passage à autre chose. Yédor, cependant, vient à mon âme un rayon de joie, une lumière de réconfort, ein Licht des Trostes, une lumière de consolation. C'est un mot majeur chez Luther comme chez Bach. Le Sauveur ne peut dissimuler son cœur qui se rompt. Alors là, il y a un mot très étonnant, c'est le verbe bricht, qui est exactement le verbe de la traduction de Luther de Jésus qui rompt le pain. Donc le Sauveur ne peut dissimuler son cœur qui se rompt de compassion. C'est le texte, c'est pas de Bach. Peut-être qu'il est de lui quand même ou revisité. On ne sait pas trop ça. Hein. On sait pas. Quand on n'a pas l'auteur dans un livret officiel, on ne sait pas qui a fait les choses. On peut penser qu'en tout cas, lui, il l'a pensé au bon moment, ce petit passage, et il va y mettre une musique tout à fait singulière, je le répète. Le Sauveur donc ne peut dissimuler son cœur qui se rompt, qui se brise de compassion. Le bras de sa grâce ne m'abandonne pas, c'est bien, je finirai ma course dans la joie, et là vous entendrez des vocalises sur le mot joie. Mais alors, l'autre chose la plus intéressante, c'est que quand la voix de basse, qui est souvent la voix du Christ, la voix de basse ici, c'est l'âme qui réentend l'avènement du jour terrible, où tout doit disparaître parce que nous sommes tous pécheurs, etc. En mi mineur de surcroît, avec quelques instruments, et bien en arrière-fond, il y a l'énoncé d'un choral à la trompette. Vous pourriez penser, c'est les trompettes du jugement dernier, c'est de la musique figurative. Bravo, Bard, bien entendre ça, c'est tellement judicieux, les trompettes du jugement dernier. Sauf que qu'est-ce qu'elles énoncent? Qu'est-ce qu'énonce une seule trompette? Mais on l'entend très très bien, très distinctement. Elle va énoncer le choral de Pâques, « Nun freut euch » de Martin Luther, « Réjouissez-vous, chrétiens bien-aimés, car le Sauveur Christ est ressuscité. » C'est-à-dire que, identiquement à la sonnerie des trompettes du jugement dernier, Bach fait entendre la sonnerie du triomphe de la résurrection. Il fait entendre la mélodie d'un des cantiques du premier jour de Pâques, de la fête de Pâques, et là, les fidèles, forcément, sont touchés, comme nous le sommes, j'espère, aussi. Il y a une intention théologique extrêmement forte, une trouvaille, qui n'existe pas dans les cantates et les motets de Telemann, de Graupner, de tous les autres, qui font de la très belle musique aussi, mais qui n'ont pas ces intuitions aussi finement ancrées dans la théologie du salut en Jésus-Christ. L'annonce du jugement dernier, si on était à l'opéra ou chez les autres musiciens dans les autres villes allemandes, doit faire entendre les trompettes qui rassemblent tous les vivants et les morts et qui vont être jugés définitivement, les uns à la droite, les autres à la gauche. Bach est très luthérien, il fait entendre le Christ ressuscité. On écoute. C'est très très court. Et après, une dernière chose, et c'est fini. Der Trompette, c'est l'énoncé du choral. Es ist das ausgesprochene Wort. Consolation qui arrive avec la trompette, l'énoncé du choral du matin de Pâques. Et donc là, mais consolé, puis alors la cantate se termine avec des formules d'allégresse sans nombre. Je vais vous faire écouter maintenant un autre récitatif, un tout petit peu plus long, mais à peine. C'est le numéro 4, s'il vous plaît. Alors c'est une autre cantate et c'est la fameuse cantate probatoire, celle qu'il a proposée à l'écoute des recruteurs du poste de cantor à Leipzig. Jesus nahm zu sich die zwölf, Jésus prit avec lui les 12 pour les emmener à Jérusalem à sa passion. Et ils ne comprirent rien, etc. Il a donné, c'est dans le texte de l'évangile, ils ne comprirent rien. Le 7 février 1723 à Leipzig. Donc il est candidat, il faut qu'il ne fasse entendre quelque chose. Et bien il va utiliser tous les codes, toutes les conventions possibles de son temps pour bien satisfaire les gens, et en particulier l'écriture en arche, comme j'ai dit tout à l'heure peut-être, avec un arioso et un chœur en ouverture, puis un aria à la voix d'alto, un récitatif accompagné à la voix de basse, c'est ce que nous allons entendre, un aria à la voix de ténor et un choral. Ça veut dire chœur en 1 et en 5, avec une strophe de cantique que tout le monde peut entonner, même vous peut-être tout à l'heure, mais je n'ai pas apporté le texte allemand pour qu'on chante. Deux airs, un à la voix de ténor, d'alto, pardon, et un autre à la voix de ténor, et puis au milieu, au centre, le récitatif. Alors le centre, c'est le plus important. C'est ce qui fait basculer la musique. La musique de Bach, elle ne va pas d'un point à un autre. Elle est en arche, et c'est le centre qui irradie sur le point initial et sur le point final. C'est très proche de la manière dont Luther faisait aussi des sermons ou des exposés de catéchisme, petit et grand catéchisme pour les enfants, il y a toujours quelque chose au centre. Le centre, c'est Jésus-Christ. Alors, c'est une cantate sur un thème, donc, vous l'avez compris, de Jésus qui emmène les 12 avec lui. Il y a donc ces deux airs où l'âme prie Jésus de l'accepter à sa suite. Et puis, pour finir, il y aura, dans le dernier air, la vision de l'éternité avec ce Jésus qui a écarté tout ce qui était mauvais pour qu'on puisse arriver au but du chemin qui est Jérusalem, en suivant le texte du livret. Mais au centre. Au centre, le récitatif, qui a l'air de rien, puisque c'est la pièce la plus courte, et comme j'ai dit tout à l'heure, qui est la moins développée avec force d'instrument, c'est la voix de basse. J'ai dit aussi tout à l'heure que la voix de basse, c'est souvent la voix du Christ. Voilà deux exemples qui nous montrent que cette voix, ça c'est une convention de tous les musiciens du XVIIe siècle en Allemagne, hein. Quand on entend la voix de basse, on dit c'est Vox Christi. En général, c'est un texte qui est censé être une parole de Jésus, qu'elle vient de l'Écriture ou qu'on lui prête ses mots. Mais là, c'est l'âme qui dit « Mon Jésus, man Jésus, entraîne-moi et je courrai, car la chair et le sang ne comprennent absolument pas, de même que tes disciples, le sens de ce que tu as dit. Ils se sont attirés, ils sont attirés par le monde et par la grande foule. Ils veulent, de part et d'autre, quand tu seras transfiguré, élever sur le mont Tabor une fière citadelle. » D'ailleurs, en allemand, là, ici, c'est Einfestburg, qui est l'incipit d'un choral de Luther, un château fort, une forteresse. Et c'est l'allusion, vous souvenez bien, des trois, qui est Pierre, qui dit « on va faire trois tentes, là, sur le moment de la transfiguration ». Donc, on s'égare, plein de choses de ce genre, mais ils ne veulent pas regarder le Golgotha, ça c'est très luthérien. Ils veulent bien aller monter sur la montagne, du Tabor, etc. Mais moi, je suis troublé, dit l'âme, en parlant à Jésus, parce qu'ils ne veulent pas regarder le Golgotha, où tu es chargé de tes souffrances, où tu fus abaissé. Ah, crucifie-moi en mon sein corrompu, ce monde tout d'abord, et ses plaisirs défendus, ainsi ce que tu dis, la parole que tu as prononcée, je pourrais parfaitement la comprendre et me rendre à Jérusalem avec 1000 joies. Und nach Jérusalem mit 1000 Freuden gehen. Vous allez entendre qu'on passe de mi bémol majeur avec cette voix de basse qui associe le Christ au tourment de l'âme. Pour une fois, plus qu'une fois, la voix de Christ s'est prêtée à celle de l'âme. Ça veut dire, là, vous vous souvenez tout à l'heure, j'espère, cette histoire de piétisme, de rencontre avec le Christ. Là, on est dans la théologie piétiste. On est, quand je m'adresse à Jésus, Jésus lui-même va mettre ses mots à lui dans l'adresse que je lui ferai. Et donc, c'est pourquoi ce n'est pas une voix de ténor ou d'alto, etc., qui ont des significations, voix dans la souffrance, voix dans l'espérance, etc. Là, c'est le Christ. Et on va passer donc d'un mi bémol majeur, qui est tout de même une tonalité assez sombre, assez sévère, assez triste, à, sur la fin, la dernière phrase, « Und nach Jérusalem in 1000 Freuden gehen », nous allons nous rendre à Jérusalem avec 1000 joies, 1000 Freuden, et avec les vocalises qui vont bien, on va passer au si bémol majeur, qui est la tonalité la plus somptueuse. Vous allez l'entendre, c'est un décrochage extraordinaire. Et pourquoi je vous fais entendre ça? Parce que je vous ai dit que le récitatif est au centre. Et que là, il y a le moment décisif et irrévocable du passage à la joie. Jusque-là, l'âme espère, elle se conforte, elle prie avec un choral, etc. Surviennent encore les tourments, l'incompréhension, les échecs, l'histoire du mont Tabor, etc. Et voilà que Jésus lui-même, puisqu'il l'accompagne sur ce chemin vers Jérusalem, il va transformer ce pèlerinage de souffrance, d'espérance, etc., en accueil de la joie. Et c'est une félicité immense, avec les mots allemands, la mit tausend Freuden, mille joies, quand on aperçoit et qu'on arrive à Jérusalem. Voici donc ce récitatif qui est le cœur de la cantate, précédé d'un choral d'un aria, suivi d'un aria et d'un choral. Qui est peut-être très agréable esthétiquement, elle a été pensée, profondément pensée, par un homme de foi, qui, sur un texte qui lui était proposé et sur lequel il aurait pu simplement figurer les choses, il a posé son assurance du salut en Jésus-Christ. Je vous remercie de votre attention.
De bec, mais pour ce qui concerne la musique instrumentale, donc il n'y a pas le support de la parole, enfin les écritures saintes, comment est-ce que vous diriez que s'exprime justement cette émission un peu catéchétique, entre guillemets, de bec, dans une musique qui est sans parole, et pourtant on sent qu'il y a quelque chose de une spiritualité qui travaille profondément.
Tout dans la musique de Bach, qu'elle soit à destination liturgique ou commande religieuse, comme ces extraits qu'on a entendus, ou qu'elle soit l'exploration de tout ce qu'un instrument peut rendre, ou des exercices, ou des florilèges, le fameux petit livre d'Anna Magdalena, ou les œuvres de divertissement, y compris les transpositions des sonates ou des concertos de Corelli, de Vivaldi, pour d'autres instruments, tout dans l'écriture de Bach a une dimension spirituelle. Bach n'est pas schizophrène. Donc dans sa musique instrumentale, il faut s'atteler, quand on le peut, à chercher où se trouve le témoignage de la foi chrétienne. Alors il ne faut pas non plus en faire une espèce d'obsession. Certains s'y sont risqués. Hein. Il y a un nommé Vidal qui, dans les années 70, a voulu, en décortiquant les grands préludes et fugues pour orgue, qui ne sont pas des pièces forcément pour l'Église, hein. Peuvent servir d'entrée et de sortie à l'office, mais pas nécessairement, c'est une forme, c'est une figure, le prélude et fugue. Et c'était donc risqué à note à note à trouver que c'était des psaumes mis en musique. Alors ça fonctionne une fois ou deux, véritablement, mais aussi quelquefois on voit que c'est vraiment forcé, que c'est à tout prix, on veut montrer que telle note indique telle chose sombre, telle chose lumineuse. Ah bon. Ou que ça correspond à tel mot, et encore il faut que ce soit les mots allemands, évidemment, et pas autre chose que d'autres répertoires de livres que Bach n'aurait, ne connaîtrait pas. Je considère pour ma part que Bach cache des témoignages de sa foi et ne les rend pas audibles. Je fais un exemple très puissant. Quand sa première femme mourut, il était en déplacement avec son prince Léopold d'Anhalt-Köthen aux eaux de Karlsbad, dans l'actuelle Tchéquie, et quand il est rentré à Köthen, sa femme était morte depuis 10 jours. On le lui a appris à ce moment-là. Et il a eu un immense chagrin, évidemment, et il s'est mis à écrire une des trois partitas pour violon seul. Dans la partita numéro 2, qui est en ré mineur, qui est 1004 dans le répertoire, et qui est dans laquelle il y a une chaconne, il a caché ce qu'on peut appeler le tombeau, un hommage à Maria Magdalena, donc sa défunte épouse. Comment a-t-il fait? C'est pas qu'il y a un côté sombre, solennel, etc. dans cette pièce, c'est qu'il a disséminé 37 notes, 37 notes exactement, qui sont le commencement d'un choral de Pâques de Luther. Alors c'est un autre que celui qu'on a entendu tout à l'heure, c'est pas Nun Freutage, c'est Christ lag in Todesbanden, Christ gisait dans les liens de la mort, qui est un choral de Pâques qui d'abord contemple que le Christ est mort sur la croix, a été déposé en sépulture et est vivant le matin de Pâques. C'est un magnifique choral qui est très célèbre encore par chez nous aujourd'hui. Sauf que ces 37 notes, elles ne sont pas les unes derrière les autres. Elles sont éclatées dans les différentes mesures, en ouverture et en conclusion de la chaconne. Et que c'est évidemment un travail de presque bénédictin de repérer. Mais comment sait-on cela d'ailleurs, hein, parce que c'est pas lui, Bach qui a dit j'ai caché un choral, vous ne l'entendrez pas, mais je l'ai quand même mis, parce que c'est ce principe-là. Ça veut dire qu'il n'a pas voulu faire entendre une citation explicite d'une musique religieuse dans une pièce pour violon seul, qui est pour les exercices, la maturité des violonistes de la cour de Köthen, etc., ou tout simplement pour la suite des temps, dans le corpus, numéro, où il y a toujours 6 numéros, des 3 sonates et des 3 partitas pour violon seul. Comme il y a 6 sonates pour violoncelle, 6 sonates pour violon et clavecin obligé, et ainsi de suite. Les 6 chorales Schubler, les 6 cantates de l'oratoire de Noël, et ainsi de suite. 6, c'est un chiffre très fort chez Bach, de ces 2 fois 3, bien sûr, c'est la Sainte Trinité qui continue. D'autres choses encore, on va laisser les 6 jours de la création, etc. Et donc, les 37 notes en question, elles sont le commencement donc de l'incipit, du Christ lag in Todesbanden, jusqu'au milieu du choral, à peu près, éclaté, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'entendre, c'est impossible. Mais sur la partition, vous pouvez la repérer, ce qu'a fait une musicologue allemande il y a une quarantaine d'années à peu près. Et pourquoi 37? C'est parce que Kyrio, les 2 premières lettres du nom du Christ en grec, en transposition musicale, arrive à 37 sur 4 mesures. qui a une valeur de 22 et Rho une valeur de 15, ce qui fait 37, ce qui veut dire qu'en même temps qu'il a cité le choral de Pâques, encore une fois éclaté, il a voulu qu'il n'y ait que 37 notes, il aurait pu prendre tout le choral, ça va un peu plus loin, ça fait peut-être 45 ou 50 notes, il n'en a fait que 37 parce que c'est Christus. Donc il a inséré dans une pièce où tout le monde s'émerveille du prodige que ça peut être de jouer, peut-être que vous savez jouer cette chaconne qui est célèbre par ailleurs, mais il a mis le nom du Christ. Et c'est une évidence maintenant, quand on l'étudie de près avec la partition, c'est une évidence. Ce chiffre 37 qui porte la notation du choral de Pâques. Et c'est la manière que Bach a eue au moment de la mort de sa femme de dire sa confiance en le ressuscité qui accueille sa défunte épouse. On pourrait multiplier avec un musicien qui s'appelle Anton Martinov, qui est violoniste aussi. Nous sommes attelés à chercher dans les sonates pour violon et clavecin obligé ce qu'elle pouvait porter comme témoignage. Et nous avons, c'est surtout l'intuition d'Anton Martinov d'ailleurs, nous avons pensé que probablement c'est une passion selon saint Matthieu mise en musique. Vous vous rendez compte, ça va très loin. Et pour certains passages, ça peut être assez évident. Pour d'autres, ça ne colle plus trop. Alors, peut-être aussi que Bach n'a pas voulu faire une chose composée d'un bout à l'autre sur ce genre d'intuition, ce genre de composition. Peut-être que c'est simplement à certains moments, dans les pièces instrumentales, qu'il insère pour lui, parce que personne, d'abord il n'en fait aucun témoignage, il ne dit pas j'ai fait ça, il n'y a rien du tout sur ses œuvres, rien du tout. Et sûrement qu'il ne l'aurait même jamais dit, parce que c'est son intimité de relation avec le Christ, et même le Saint-Esprit, et lui. Voilà. Et on pourrait multiplier, mais nous ne le faisons pas, mais au moins, en tout cas, cette histoire de chaconne, dans la partita numéro 2 pour violon seul, c'est emblématique. Pour moi, c'est emblématique de tout le reste de l'œuvre. Deuxième et dernière question.
Vas-y, tu serais pas de question. Les germanistes et musiciennes.
Bon, on va s'arrêter là. Merci infiniment, les chers pasteurs. Je passerai les titres de vos livres au Téléa qui sera intéressé.
Oui, bien sûr, je vous ai envoyé même les visites.